Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, au micro Jérôme Longuet. Cette semaine, Escale s'intéresse à l'ouverture de la 72e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, une session axée cette année sur le développement et le climat. Une session dont le thème officiel a pour libellé « Mettre l'accent sur les personnes, lutter pour la paix et une vie décente pour tous sur une planète durable ». Nous reviendrons donc plus spécifiquement sur les trois premiers jours du débat annuel de l'Assemblée avec des interventions et réactions par les principaux acteurs du monde et de la communauté francophone. Le mardi 19 septembre 2017 a donc marqué le début effectif de la 72e session de l'Assemblée générale des Nations Unies avec l'ouverture du débat annuel. Un débat général lancé par l'intervention du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, sur le travail de l'organisation. Antonio Guterres qui a listé les sept principaux défis à relever, à commencer par le péril nucléaire lié aux essais nord-coréens, le terrorisme, les conflits non résolus et les violations systématiques du droit international humanitaire telles qu'observées au Myanmar, en Syrie, au Yémen ou encore au Sud-Soudan, sans omettre la menace des changements climatiques. Le secrétaire général qui a aussi mis l'accent sur les inégalités croissantes qui sapent les fondements même des sociétés. Antonio Guterres.
Nous voyons des disparités criantes dans les revenus, l'égalité des chances et l'accès aux résultats de la recherche et de l'innovation. 8 hommes représentent autant de richesses mondiales que la moitié de l'ensemble de l'humanité. Des régions, des pays et des communautés entières restent loin des vagues de progrès et de croissance livrées à eux-mêmes dans les Rust Belts de notre monde. Et cette exclusion a un prix, frustration, aliénation, instabilité. Mais nous avons un plan visant à changer le cap pour parvenir à une mondialisation équitable. Ce plan est le programme 2030. La moitié de notre monde est de sexe féminin. La moitié de notre monde a moins de 25 ans. Nous ne pouvons pas atteindre les objectifs de développement durable sans tirer parti du pouvoir des femmes et nous appuyer sur l'énorme énergie des jeunes.
Dans son premier discours devant les dirigeants du monde, le président américain Donald Trump a lancé un appel au patriotisme, soulignant que le devoir de tous les dirigeants présents est de défendre avant tout les intérêts de leur nation et de leur peuple. Selon lui, la contribution des États-Unis à l'ONU est disproportionnée. Les Américains espèrent que l'ONU pourra un jour défendre mieux la dignité humaine et la liberté dans le monde. D'ici là, les pays du monde doivent mieux assurer la sécurité et la prospérité dans leur région. Donald Trump qui a demandé aux États d'affronter les menaces actuelles en Iran, mais aussi en Corée du Nord.
Aucune nation sur cette terre n'a intérêt à voir cette bande de criminels s'armer avec des armes nucléaires et des missiles. Les États-Unis ont une grande force et sont patients. Mais s'ils sont forcés de se défendre ou de défendre leurs alliés, ils n'auront pas d'autre choix que de détruire totalement la Corée du Nord. L'homme au fusée, Rocketman, est engagé dans une mission suicide pour lui-même et pour son régime. Les États-Unis se tiennent prêts, déterminés et capables, mais j'espère que cela ne sera pas nécessaire. C'est la raison d'être de l'ONU. C'est pour ça que l'ONU a été créée. Voyons ce qui arrive. Il est temps pour la Corée du Nord d'accepter que la dénucléarisation est son seul avenir acceptable. Il est temps que toutes les nations travaillent ensemble pour isoler le régime de Kim jusqu'à ce qu'il cesse son comportement hostile.
Pour sa part, Alpha Condé, président de la Guinée et de l'Union africaine, a rappelé la détermination de l'Afrique à prendre son destin en main, tout en soulignant l'interdépendance des défis. Il a exhorté les Nations Unies à soutenir le règlement des conflits en Libye, en République centrafricaine, en République démocratique du Congo et au Burundi. Un appel doublé d'un plaidoyer en faveur d'une réforme du Conseil de sécurité et de l'ONU. Alpha Condé.
Nous sommes déterminés à œuvrer pour l'extinction des foyers de tension en Afrique par la promotion du dialogue et des solutions africaines. Nous exhortons la communauté internationale à inscrire son action dans ce credo, notamment en Libye, République centrafricaine, République démocratique du Congo ou encore au Burundi, où certaines initiatives parallèles inhibent le retour de la stabilité. L'Afrique ne doit plus rester en marge des décisions qui la concernent. Pour ce faire, elle entend œuvrer à la mise en place d'une architecture internationale capable d'opérer des changements légitimement attendus par nos peuples. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a la santé primaire du maintien de la paix et de la sécurité dans le monde, ne reflète plus les réalités actuelles. Comment comprendre que l'Afrique, qui constitue la troisième puissance démographique du monde, ne soit pas représentée à un niveau approprié au sein de ce Conseil de sécurité, alors que 70% des questions y débattues concernent l'Afrique? Il est temps de réparer cette injustice qui n'a que trop duré.
Au-delà des thèmes de la paix, des droits de l'homme et du développement durable, c'est la réforme des Nations Unies et la pertinence du multilatéralisme qui ont servi de toile de fond au débat. Un multilatéralisme que le président français Emmanuel Macron, qui s'adressait lui aussi pour la première fois à l'Assemblée Générale, a souhaité fort et responsable.
Ne pas écouter ces voix, c'est croire que leur misère n'est pas la nôtre. Que nous posséderons pour toujours les biens dont ils ne pourront que rêver. Mais lorsque ce bien c'est la planète, lorsque ce bien c'est la paix, la justice, la liberté, pensez-vous que nous puissions en jouir seuls dans un coin ? Si nous ne prenons pas la défense de ces biens communs, nous serons tous balayés. Nous laissons s'enflammer des brasiers où demain l'histoire jettera nos propres enfants. Et oui, aujourd'hui encore plus qu'hier, nos biens communs, c'est aussi notre intérêt. Notre sécurité, c'est aussi leur sécurité. Et il n'y aurait pas d'un côté l'irénisme de ceux qui croient à la règle de droit et au multilatéralisme, et de l'autre côté le pragmatisme de certains unilatéraux. C'est faux. Notre efficacité réelle se joue dans ce combat ici. Alors avec vous, je veux croire aujourd'hui dans un multilatéralisme fort, responsable. C'est la responsabilité de notre génération si elle ne veut pas laisser place à la fatalité.
Un plaidoyer pour le multilatéralisme qui a aussi servi d'écho aux propos vigoureux du président américain au point de faire réagir devant les journalistes Doris Letart, la présidente de la Confédération suisse, dont le pays accueille un grand nombre d'agences et institutions des Nations Unies.
Je pense Jacques Président à l'E3 comme Jacques l'État de se prononcer avec le langage qu'il faut et le contenu qu'il convienne. Mais je pense quand même, ici l'ONU, c'est la place de la coopération, c'est la place des mesures collectives, c'est la place de défendre la paix et pas de menacer. Je pense l'esprit de l'ONU est exactement un peu l'inverse. Même si on a des difficultés, des conflits qui sont très difficiles, il faut le dialogue, il faut des solutions politiques. Et pour cela, on a ici des institutions comme le Conseil de sécurité et des mesures qui sont appropriées. Et je pense là, Monsieur le Président Trump ne s'est pas prononcé dans l'esprit des Nations Unies.
Autre chef d'État francophone, le président de la Côte d'Ivoire, qui au deuxième jour du débat général a exhorté à l'action et au respect des engagements internationaux afin de répondre aux aspirations des populations en matière de sécurité et de développement. On écoute Alassane Ouattara.
Dans un monde en proie à de graves turbulences géopolitiques et au dérèglement climatique, le thème de notre session, à savoir priorité à l'être humain, paix et vie décente pour tous, sur une planète préservée, est un appel à l'action et au sursaut de tous en vue de consolider la paix dans le monde. Il nous faut concevoir un modèle de développement plus équilibré entre les pays et plus juste entre les hommes. Ce thème nous interpelle sur l'urgence de préserver notre planète en vue de bâtir le monde vertueux que nous voulons pour nous-mêmes et pour les générations futures. Les discussions que nous avons eues avec chacun de vos pays dans le cadre de la promotion de notre candidature au Conseil de sécurité, nous retenons l'exigence et l'urgence de répondre aux nouvelles menaces globales afin d'instaurer une paix durable, profitable à tous.
Comme chaque année, l'Afrique est venue en force à la grande session de rentrée de l'Assemblée Générale. Or, le continent constitue l'épicentre, le révélateur, le miroir de nombre de crises et soubresauts du monde. À l'instar du Sahel, agité par le terrorisme et l'extrémisme violent. Des mots que connaît trop bien le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a instamment prié les pays donateurs à financer la force conjointe du G5 Sahel, qui, outre le Mali, rassemble le Burkina Faso, le Niger, le Tchad et la Mauritanie, et dont les premières opérations devraient débuter en octobre 2017.
Cette force conjointe est d'utilité publique avérée. Nous sommes un espace de passage aujourd'hui, mais la bataille que nous conduisons dans le Sahel est une digue aujourd'hui. Si, par malheur, cette digue devait céder, ce serait un malheur pour l'ensemble du monde civilisé, du monde qui partage nos valeurs. C'est pour cela que dans le domaine de l'équipement des bataillons, du renforcement des capacités logistiques, ainsi que celui des secteurs de la communication, l'évacuation médicale d'urgence et la lutte contre les dernières explosifs improvisés, qu'on appelle les EEI, nous avons besoin de votre aide. Parallèlement au volet sécuritaire, le G5 Sahel accorde une grande priorité aux questions de développement, de résilience des populations, de gouvernance, d'emploi décent pour la jeunesse de nos pays, etc. C'est le lieu de vous inviter, communauté internationale, pour un accompagnement du programme d'investissement prioritaire que nous appelons PIP, programme d'investissement prioritaire.
Pays voisin du Mali, le Burkina Faso a lui aussi jeudi, au cours du débat, insisté sur la lutte contre le terrorisme, la qualifiant de priorité nationale. On écoute le président burkinabé Roch Marc Christian Kabore.
Cible depuis quelque temps des forces terroristes obscurantistes. Mon pays a pris la pleine mesure de leur volonté clairement affichée de le déstabiliser ainsi que l'ensemble des pays de la région. La lutte contre le terrorisme est donc désormais une priorité nationale qui n'aura de succès que si elle s'inscrit non seulement dans une approche sous-régionale, mais également et surtout dans une dynamique de développement économique des zones les plus vulnérables. Pour cette raison, nous accordons une attention particulière au nord de notre pays. Nous y avons certes enregistré des succès sur le plan opérationnel, mais ceci mérite d'être renforcé par un programme d'urgence d'investissement que nous avons récemment adopté afin de réduire la vulnérabilité des populations, surtout des jeunes et des femmes. Cependant, et on ne le dira jamais assez, le terrorisme est aussi et surtout un fléau global. Parce qu'il frappe sans discrimination, il appelle une condamnation claire et ferme de tous et une réponse collective efficace faite de solidarité et de mutualisation de nos efforts et de nos moyens.
Lors du même débat, jeudi, le président d'Haïti, Jovenel Moïse, pays où la MINUSTA, la mission des Nations Unies, achèvera le mois prochain son mandat, a déclaré que son gouvernement ne ménageait aucun effort pour consolider la démocratie et l'état de droit dans le pays et mener une lutte acharnée contre la corruption.
La corruption est un crime contre le développement. Les milliards de dollars dépensés en Haïti au cours des dernières décennies aboutissent parfois à certains contrats qui déstabilisent l'économie nationale, et ce, au détriment du peuple haïtien. Il est donc temps que l'aide publique au développement et nos ressources internes servent l'intérêt de la nation haïtienne tout entière. La corruption prive le gouvernement haïtien de ressources suffisantes pour fournir les services de base à la population. La corruption, si elle n'est pas enrayée, continuera à alimenter l'instabilité politique et sociale en Haïti. Elle prive la grande majorité des Haïtiens d'une distribution adéquate d'énergie électrique, d'une éducation de qualité à tous ses fils et ses filles, de l'eau potable et d'opportunités économiques et sociales. Pour renverser ce phénomène dévastateur, le nouveau leadership haïtien mène une lutte acharnée contre la corruption.
Enfin, s'agissant toujours des Amériques, le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, rappelant que son pays fête cette année son 150e anniversaire, a procédé à un véritable mea culpa au nom de son gouvernement pour les discriminations infligées au fil des ans aux peuples autochtones. Justin Trudeau.
Ils ont été victimes d'un gouvernement qui a cherché à réécrire leur histoire distincte, à éradiquer leur langue et leur culture en imposant plutôt des traditions et des modes de vie coloniaux. Ils ont été victimes d'un gouvernement qui a rejeté la protection du territoire et des eaux préconisées par les Autochtones, le principe de penser toujours aux 7 prochaines générations. Au fond, nous avons rejeté l'idée même que des générations entières d'Autochtones puissent se définir et vivre dans la dignité et la fierté qui leur est due. Et nous avons privé le Canada des contributions significatives que ces générations auraient offertes pour faire avancer ensemble notre grand pays. L'incapacité des gouvernements canadiens successifs à respecter les droits des Autochtones au Canada nous fait grandement honte. Et pour beaucoup trop d'Autochtones, ce non-respect des droits persiste encore aujourd'hui.
On le voit donc, les premiers jours du débat général de la 72e session de l'Assemblée générale ont tenu toutes leurs promesses et la suite des travaux semble susciter de vrais espoirs de voir la résolution de certaines questions progresser, à commencer par celle de la paix et de la prévention. Des priorités que le président de la 72e session, le diplomate slovaque Miroslav Lajčák, avait souhaité le 19 septembre dans son discours prononcé lors de l'ouverture du débat, voire placé au centre de tout ce que l'ONU fait, rappelant avec insistance que les Nations Unies n'ont pas été créées pour des diplomates ou des dignitaires, mais pour répondre aux attentes des populations. Voilà, ainsi s'achève ce magazine Escale, consacré cette semaine au lancement du débat annuel de l'Assemblée générale des Nations Unies, un magazine préparé et présenté par Jérôme Longuet avec la collaboration de Florence Westgaard. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet et sur les médias sociaux le journal quotidien d'ONU Info, mais aussi les magazines hebdomadaires ainsi que les mises à jour. En attendant, merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.